Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour, bonjour les amis, ravis de vous retrouver sur les ondes de RFI. Alors on dit quoi ? Mais la lumière sur les médias dit afro, parfois aussi appelé médias ethniques. En tout cas, ils informent, conseillent, divertissent, orientent et ciblent clairement les afro-descendants, hommes et femmes, toutes catégories sociales confondues, à travers des magazines, la télé ou encore la radio, mais aussi et surtout des sites internet et blogs. Les contenus exposent, dénoncent, parfois valorisent, expliquent à travers un prisme noir leur quotidien et leurs problématiques. La radio et la télévision commencent à faire une place dans l'espace médiatique à cette nouvelle presse qui offre du contenu divertissant, qualitatif et surtout alternatif. On peut citer les plus historiques comme Amina ou Jeune Afrique, mais aussi d'ambitieux nouveaux vecteurs de communication comme NWE, Nothing But The Wax, Afropolitan Magazine ou encore Je Wanda Magazine. Fin connaisseur de leur cœur de cible, de ses traditions et de sa culture, cette génération médiatique est déterminée à faire entendre sa voix en donnant de la visibilité aux populations qui sont souvent reléguées au second plan de la presse française. Qui pilote ces médias ? Comment se distinguent-ils ? Quels en sont les freins et limites ? Comment cette nouvelle génération tente de modifier le paysage médiatique en France et dans le monde ? Avec Alors on dit quoi ? On répond à tout cela dans quelques instants. Accueil d'Em, c'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Jaran Jai.
Et pour m'accompagner en studio, je suis en compagnie d'Aurélia, elle est cofondatrice de NWE, Niggas with Enjoyment. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour également à Maximilien, qui est le rédacteur en chef du magazine Afropolitan.
Bonjour.
Et notre dernier invité, Salah Edine, journaliste et responsable contenu digital à Africa Radio.
Bonjour Dira, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation à vous trois. Pour commencer, peut-être une question pour vous, Salah Edine. Qu'est-ce qu'un média d'afro-descendant ? Je parlais d'afro-ethnique, d'afro tout simplement. Qu'est-ce que cette notion vous évoque, vous ?
C'est un média qui parle à la diaspora. C'est vrai que... on parle souvent d'Afrique, Afrique, mais il y a certaines diversités concernant le continent africain et on a la chance d'avoir des diasporas dans plusieurs pays. Là, pour le cas, c'est la France. Je pense que c'est des médias qui parlent à une diaspora qui est de plus en plus intéressée par ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, je pense tout simplement c'est ça. C'est un média qui fait le lien entre l'Afrique et ce qui se passe ici en Europe, tout simplement.
Maximilien, dans l'intro, je parlais de médias afro, de médias ethniques. Certains préfèrent parler de médias identitaires, mais surtout pas communautaires. Est-ce que vous voyez une distinction entre ces deux notions ?
Je vois une distinction, mais... si j'avais à choisir, je dirais qu'on est plus un média communautaire qu'identitaire, parce que, effectivement, pour reprendre ce que mon collègue a dit, nous nous adressons aux afro-descendants et à l'afropolitain, on élargit aux différentes communautés, c'est-à-dire qu'en afro-descendant, nous parlons à la communauté qui est francophone, mais aussi anglophone, et aussi antillaise, et aussi aborigène. Donc, tous ceux qui peuvent, j'allais pas dire opprimés, mais tous ceux, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui sont un peu mis à l'écart, trouvent un écho dans notre média.
Aurélia, est-ce que pour vous, NWE est un média segmentant au même titre qu'un journal qui s'adresse aux jeunes, qui s'adresse aux seniors ou qui s'adresse aux homosexuels, je ne sais pas?
Non, on cherche un peu à toucher toutes les générations. Et pourquoi pas passer un message aux dernières générations et les informer de ce qui s'est passé, de comment ça se passait avec le peu d'informations qu'on peut avoir. Et puis même la nouvelle génération qui crée beaucoup de nouvelles choses et montrer entre guillemets aux anciens que voilà comment ça se passe maintenant et qu'on les oublie pas.
C'est un peu le cas de NWE.
C'est ça.
Comment on pourrait définir ou décrire rapidement un petit peu l'univers de cette plateforme ?
Alors, c'est un univers qui part d'abord de la musique, qui part beaucoup de la musique africaine, donc de ce que ce soit tribal ou moderne. Et on a beaucoup d'évolution par rapport à avant. Donc, on avait quelques artistes.
Avant, c'est-à-dire vous avez été créé quand, vous ?
En 2014. En 2014, donc on était essentiellement sur la musique africaine. Et ensuite, on a étendu notre univers, donc l'afro-américain, hip-hop, tout ce qui est musique de la diaspora aussi. Donc on a pas que en France, on a dans toute l'Europe, qu'on a aussi dans l'Amérique latine.
Donc vous publiez des clips vidéo ?
Des clips vidéo, des vidéos de danse aussi, donc qui se rejoint aussi avec les clips vidéo. Et aussi du culinaire africain, donc revisiter ou tout ce qu'on peut trouver dans un village, dans un pays en Afrique. Et surtout aussi tout ce qui est pour les athlètes.
Donc du sport.
Voilà,
du sport. C'est varié finalement.
Voilà.
Maximilien, vous, quelle est la particularité d'Afropolitan Magazine?
Nous sommes un magazine généraliste, donc on parle un peu de tout. On va parler de culinaire, on va parler de danse, on va parler de politique, de société, d'économie. On aime bien l'économie et de sport. Voilà. Donc c'est vraiment un magazine généraliste qui s'adresse aux hommes comme aux femmes. Le magazine est divisé en deux parties. Une partie homme, une partie femme. Et souvent, ce qu'on aime bien, surtout sur les sujets de société ou d'économie, c'est avoir deux angles. On traite le même sujet, mais du côté femme, on va mettre un rédacteur homme qui va donner son point de vue, et du côté homme, on
va prendre... Pourquoi cette particularité? Tiens, pourquoi vous avez
Parce choisi qu'on sait qu'il y a des diversités d'opinions sur pas mal de sujets, et notamment sur les sujets de société. Et donc, voilà, on s'est dit que ça serait bien intéressant de voir deux échos, deux sons de cloche sur le même sujet.
Mmh. Vous, Salah, on connaît Africa Radio, c'était Africa numéro 1, ça a été récemment, un changement récent, n'est-ce pas?
Voilà, oui.
Qu'est-ce qui a modifié ce choix? Qu'est-ce qui a justifié ce choix?
C'est en fait le nouveau cap qui a été emmené par notamment les nouveaux actionnaires de l'entreprise qui veulent entre guillemets se réinstaller en Afrique. Il y a eu un lancement qui a été fait à Abidjan. On a une fréquence là-bas qui est le 91 points. On a une équipe qui est présente là-bas. Mm-hmm. On a prochainement l'antenne à Brazzaville qui va également arriver avec un lancement également là-bas. En gros, c'est le redéploiement d'Africa numéro 1.
Une radio quand même historique. Hein. J'ai pas cité exactement. Tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on connaît depuis les années 80, donc on n'était même pas nés. Et la radio, elle a bien évolué. Hein. Aujourd'hui, on a vu le changement. Non, mais c'est pas que ça, finalement. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Comment elle se positionne aujourd'hui, cette radio?
Je pense que la radio évolue avec son temps, tout simplement. Il y a pas mal de choses qui changent, qui évoluent, notamment dans l'actualité ou dans tout ce qui concerne la diaspora. Mm-hmm. Et je pense qu'avec ce positionnement, notamment avec Abidjan, ce retour aux sources en Afrique...
En fait, fabriquer l'information localement.
Il y aura, c'est un des projets. Il y a une rédaction qui est en train de se monter du côté d'Abidjan. Et là, on a une rédaction qui est à Paris, donc on travaille ensemble. Et il y a vraiment ce projet d'avoir une grande rédaction panafricaine du côté de l'Afrique, notamment d'Abidjan. Et avec la rédaction de Paris, on pourra sans doute travailler ensemble. Et c'est un des grands projets des actionnaires de l'entreprise. Mmh.
On va continuer de parler de tout cela. J'aimerais, juste avant qu'on suive ce reportage de notre correspondante à Dakar, Estelle, il nous montre un peu une facette intéressante des médias afro qui sont visibles à travers des podcasts, des magazines ou encore des chaînes YouTube, voire même sur Instagram. Le but, c'est de comprendre comment ces nouveaux canaux d'information et de divertissement impactent la jeunesse africaine, mais aussi la diaspora. On l'écoute.
Au Sénégal, de nouveaux médias ont vu le jour. Si la radio et la télévision restent les médias plébiscités par la majorité des Sénégalais, une presse jeune et digitale tente de se faire une place dans l'espace médiatique. C'est pour reconquérir le cœur de la jeunesse que le pionnier du hip-hop sénégalais Roman et Katie ont fondé la chaîne YouTube JT Rappé. Le principe, donner des informations en musique et avec humour tout en rappant.
Bonjour, bienvenue, installez-vous, que la paix soit avec vous. La colombe a été touchée, mais elle vole malgré tout. Le Mali a vacillé, mais reste quand même debout.
C'est comme ça, en jouant, en m'amusant plutôt, que j'ai commencé à écrire les premières rimes, tu vois, qui parlaient de bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Donc ça, c'était d'abord trouver la formule qui accrochait. Ensuite, ne pas surcharger les textes, parce que celui qui écoute n'est pas forcément un fan du hip-hop.
La scène rap et hip-hop sénégalaise s'engage auprès de la jeunesse et dénonce l'injustice sociale depuis les années 80.
Le journal rappé, c'était une nécessité, parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations. C'est né après la crise, on va dire, post-électorale de 2012. On a décidé de faire un magazine en hip-hop parce qu'on sait que beaucoup de jeunes sont connectés sur les réseaux sociaux. Ils sont au courant de tous les derniers gossips. Ils sont au courant de tous les scores du football, etc. Mais ils ne sont pas au courant forcément de comment fonctionne le budget de l'État, comme par exemple.
Avec des JT disponibles en Wolof et en français, la chaîne cumule plus de 35 millions de vues sur YouTube. Les deux rappeurs engagés tournent le plateau en studio, sur fond vert ou avec des envoyés spéciaux dans la rue. Les vidéos sont ensuite montées et mixées. Un travail professionnel qui nécessite un processus de fact-checking difficile pour ces deux amis qui n'avaient jamais fait de journalisme.
On a un comité en tout cas qui collecte des informations. Donc c'est des journalistes parfois, c'est des gens qui travaillent sur des sites, des amis qui travaillent sur des sites d'informations qui nous envoient une liste des faits d'actualité. Et ensuite nous, selon les faits les plus pertinents, les faits qui sont parfois les moins médiatisés, on va décider de dire, on va utiliser, on va parler de cela.
Tous pourris, tous biaisés ou trop proches du pouvoir. Voilà les reproches souvent proférés à l'encontre des médias traditionnels africains comme occidentaux. C'est pour répondre à ce besoin de transparence que Moussa Ngom, 26 ans, a créé la Maison des Reporters. Une trentaine de reporters basés en France et au Sénégal fournissent des reportages d'investigation certifiés 100% indépendants.
Les jeunes journalistes, ils ont peut-être aussi beaucoup plus envie d'indépendance, en fait. Il y a aussi une sorte de rupture de paradigme, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts, en fait, dans le monde, vers le monde de la presse. Ils sont beaucoup plus imprégnés de ce qui se passe, par exemple, avec Mediapart ou d'autres médias d'investigation. Donc, ils ont envie de faire ça. Il y a, par exemple, certains qui m'interpellent, qui disent « Ah, moi, j'ai toujours voulu faire ce que Elius lui s'est fait, par exemple, quelque chose comme ça. »
Pour un abonnement allant de 5 000 à 25 000 francs CFA, le média propose des reportages vidéo et écrits autour de sujets de société tabous, comme les médicaments illicites ou encore la corruption.
Et aussi, une chose qui m'a assez touché aussi, c'est que dans le lot des contributeurs, lors de la levée de fonds, il y avait beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de jeunes personnes qui n'avaient jamais payé pour de l'information. Et donc, c'est la première fois, en fait. Donc, ce qui montre qu'ils ont certains intérêts par rapport à ce type d'information.
Un travail de qualité qui n'est pas sans danger.
Pour l'enquête sur les médicaments illicites, j'ai reçu pas mal de menaces. Mais bon, c'était déjà prévisible. Pour l'enquête sur la corruption aussi, il a fallu réaliser ça sans que, par exemple, ma famille soit au courant. Lorsqu'elle a été au courant, elle n'a pas apprécié.
Stanislas Saïd est sénégalais d'origine libanaise, et ça depuis plusieurs générations. Il est le fondateur de Movindak, une revue gratuite et tirée chaque mois à 10 000 exemplaires. On y retrouve notamment des bons plans gastronomiques, des portraits, de l'art et des photoshootings éditoriales dignes des grands magazines de mode.
C'est de là en fait qu'est partie l'idée de départ, c'était de mettre en avant des designers. En fait, on est parti sur des designers africains, sénégalais. Et l'idée est partie de là et on a commencé à développer. Donc on part sur un article musical. Donc on va mettre un jeune talent sénégalais qui sort un album ou à découvrir.
Stanislas compte porter son ambition panafricaine au-delà des frontières du Sénégal. Moving Bibi, la version ivoirienne de la revue, compte bientôt être lancée.
Et moi je croise mes collègues, je leur dis mais il faut revenir au Sénégal. Donc ouais, t'as bossé à New York, t'es à Washington, tous mes potes ils sont là-bas, tous mes potes sénégalais ils sont partis, ils sont à Londres dans la finance, etc. ou quoi. Mais je leur dis mais les gars il faut revenir. Hein, il faut bosser pour l'Afrique, faut tout ce que tu as appris à l'étranger, voilà. Maintenant il faut revenir au pays.
Parler à la diaspora africaine à travers un nouveau média, voilà le défi que s'est lancé Francine Awapipien, une franco-sénégalaise de 31 ans. Cette ancienne digital manager chez Africa 24 est aujourd'hui à la tête de Gewell Studio, une agence créative.
Cet attachement envers l'Afrique que je ne pourrais pas enlever.
Et là, je suis partie dans une nostalgie du pays.
Son premier podcast, Sodad, la nostalgie, comme le chantait l'artiste capverdienne Césaria Evora, est un projet entièrement autofinancé.
Et vraiment partie à la rencontre de différentes personnalités du Congo, du Bénin, du Gabon, du Sénégal, qui rencontrent le Liban, l'Arménie, la France. Ils ont tous, on va dire, ce déclic-là, cette saudade-là qui réussissent à nous raconter à leur façon, et chacun a son histoire à soi, et je pense que c'est ce qui a plu. Il y a un réel besoin de la diaspora de savoir ce qui est fait ici et nous de rester connectés avec eux, parce que ça reste une force de se dire que On est partout.
Rester connecté en étant partout. Aurélia, une réaction après avoir écouté ce reportage?
Alors, il y a un concept qui m'a beaucoup marqué. C'est le reporter en rappant.
Mm-hmm, le journal rappé.
Voilà, j'avais jamais entendu parler de ça. Mm-hmm. En plus, ça concerne le domaine un peu de la musique. Donc, je pense que c'est un concept assez captivant.
Et qui marche très très bien. Hein, et franchement, rappeur sénégalais, en fait, qui rappe l'actu.
Et je suis étonnée et franchement, ils sont très courageux parce qu'ils parlent pas de sujets bateaux, c'est vraiment des sujets sensibles. Je leur tire mon chapeau.
Mmh. Maximilien ?
Celui qui m'a le plus intéressé, c'est le deuxième concept mmh. qui me fait un peu penser à Mediapart.
Du journalisme d'investigation.
Journalisme d'investigation mmh. qui est financé par les lecteurs. Donc on revient au journalisme pur sans... Parce qu'au départ, je me demandais justement comment est-ce qu'ils se finançaient, comment est-ce qu'ils jouaient de leur indépendance par rapport aux annonceurs, mais non pas d'annonceurs, ils sont financés par leurs auditeurs plutôt. Donc mm-hmm. Oui, c'est assez intéressant.
Un projet intéressant. Ouais. Et vous, Salah, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué
Oui, il y a des concepts qui sont très intéressants. Bah, JTRAP, c'est un modèle qui a été exporté dans d'autres pays. Absolument. Maintenant, on fait d'autres JTRAP. Et c'est bien de... à travers le rap et le hip-hop, d'intéresser une jeunesse à ce qui se passe dans l'actualité. Bah, l'indépendance, c'est un des mots que j'ai retenu aussi de ce reportage où il y a le modèle Mediapart où les jeunes veulent savoir d'où viennent les reportages et le podcast aussi très intéressant, mm-hmm. le mot attachement à l'Afrique. Et c'est bien, c'est-à-dire que on est au Sénégal, mais ils s'intéressent à tout ce qui se passe dans d'autres pays, dans les pays voisins. Donc je pense que c'est des concepts qui sont tous très très pertinents.
On le voit, la jeunesse est très ouverte au monde. On n'est pas forcément intéressé qu'à son pays. Et j'ai vu en préparant cette émission un récent sondage de confiance dans les médias réalisé par Kantar pour La Croix. Il indique que l'intérêt des Français pour l'information atteint son plus bas niveau historique, une défiance qui s'accroît d'année en année. Le Reuters Institute dit la même chose dans le monde. Voilà, les gens n'ont plus trop confiance. Est-ce que vous estimez que vous, ce quatrième pouvoir spécifiquement afro dont on parle ici, c'est peut-être un tournant décisif? Est-ce qu'il peut saisir cette opportunité et tirer son épingle du jeu? Est-ce que...
Je sais pas s'il peut tirer son épingle du jeu, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis des médias, de plus en plus de doutes. Mais on est aussi à une époque, grâce à Internet, où on arrive à savoir d'où viennent les informations. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire un public reportage et de le balancer comme ça, en faisant croire que c'est un reportage indépendant. Donc il y a quand même une prise de conscience d'une jeunesse, et pas que de la jeunesse, que ce soit de la diaspora ou sur le continent africain, qui se rend compte que on a quand même, nous aussi, notre petit pouvoir, à travers les réseaux sociaux notamment, où on peut émettre des doutes. Ou pas sur l'indépendance d'un reportage. Je pense que c'est une bonne chose, et je pense que les réseaux sociaux équilibrent un petit peu tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, les journalistes, ils sont directement ciblés, on les critique directement, on leur demande des preuves, mais de l'autre côté, il y a ce public qui demande des preuves et qui c'est limite légitime, parce qu'il y a de plus en plus de choses, il s'est passé beaucoup de choses en France, notamment je pense qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a créé un fossé entre les médias et les contestataires et ceux qui suivent l'actualité. Donc je pense que c'est finalement les réseaux sociaux équilibrent un petit peu tout ça.
Vous avez le sentiment que le journalisme joue un moment particulier de son histoire?
Clairement, clairement, c'est-à-dire que on est aussi à la période où il y a énormément de fake news, même si les fake news ne datent pas d'hier.
Qu'on vérifie grâce à Valdez dans cette dans cette
émission. Voilà, donc c'est on est à une période assez particulière où je pense que les médias doivent travailler pour avoir plus de crédibilité, tout simplement vis-à-vis de soit des auditeurs ou des téléspectateurs, tout simplement.
Alors on dit quoi? Jaranjay.
Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI ce samedi, immersion au cœur des rédactions de médias afro. Ces derniers modifient les codes de la presse traditionnelle. Que pensez-vous de ce type de médias qui pilote cette nouvelle génération? Comment se distinguent ces médias et quels sont les freins? Eh bien, nos invités nous livrent leur éclairage et les auditeurs sont également de la partie. Nous avons en ligne Lauriane. Bonjour Lauriane.
Bonjour Diarra. Bonjour à tous.
Bonjour. Lauriane, vous avez étudié, vous travaillez actuellement en France. Vous déplorez notamment le manque de visibilité des profils noirs, d'où l'idée de la création de Afrique Inspiration. Alors, dites-nous en plus.
Alors, Afrique Inspiration, Afrique avec Q, apostrophe, Inspiration, est un magazine pour l'instant purement digital. Je suis présente sur Facebook et sur Instagram. Il a été créé il y a à peine quelques semaines. Alors, il est appelé à devenir un magazine version papier et distribué dans les collèges et les lycées. Je vous explique le concept. Il s'agit d'établir des portraits, des biographies de personnes, pas connues, des personnes qui sont autour de moi, mais qui ont des parcours brillants, des parcours inspirants ou un atout particulier. Et je me propose de les raconter. Les raconter pendant qu'elles sont comme moi, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on ne devient pas CEO, gouverneur, élu ou encore président du jour au lendemain. Je prends l'exemple du Usain Bolt. Je suis sûre qu'il ne s'est pas réveillé en ayant remarqué qu'il était l'homme le plus rapide au monde. Ou Basile, cet étudiant dont j'ai dressé le portrait, qui veut travailler pour la NASA. En attendant, il est doctorant à la Sorbonne et c'est le seul étudiant à avoir eu la bourse d'excellence de la Sorbonne à Dakar. Cecilia Wilson qui veut travailler à Harvard. En ce moment, elle travaille pour l'ONU. Jemima, qui est passionnée d'agriculture. Aurélie, qui a une enfance très problématique aujourd'hui, qui est engagée auprès des enfants et qui transforme la vie de ces enfants-là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé ce média? Parce que, à mon sens, la communauté africaine fait partie des communautés les plus méprisées de ce pays. Pourquoi je dis ça? Parce que faisons partie de ces communautés-là qui sont très facilement orientables vers les CAP, petite enfance, vers les classes pour les élèves en difficulté.
C'est la raison pour laquelle vous ciblez particulièrement la jeunesse, Lauriane?
Exactement, parce que très difficilement, nous sommes orientés vers les lycées d'excellence, le lycée Stanislas, le lycée Saint-Louis de Gonzague ou le lycée Henri IV. On ne nous oriente jamais vers ces lycées-là. Et même lorsque nous y sommes, c'est encore une autre paire de manches. Donc, mon message à l'égard de ces jeunes noirs, c'est que qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, en Amérique ou en Asie, le message c'est possible. Ce ne sera pas facile, mais regarde, parce que d'autres comme toi, d'autres noirs, ils l'ont fait et appliquent un certain de valeurs, dont les valeurs que j'ai citées, la fidélité, la discipline, le travail, et tu verras la réussite au bout du tunnel.
Eh bien, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, hein, Lauriane, avec cette belle initiative qui est Afrique Inspiration.
Je vous remercie.
Je vous ai vu réagir, Salah, sur le concept qui vient d'être développé par Lauriane. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Non, c'est bien de valoriser les talents, les parcours de talents. On peut avoir un parcours tout à fait honorable en faisant un CAP ou un BEP, il n'y a pas de problème. Après, c'est bien, c'est une très bonne chose, je pense, de valoriser pour que les plus jeunes, tout simplement, soient inspirés. Parce que c'est vrai qu'on a, très peu de modèles, finalement, en France. Mais après, la réussite, c'est relatif. Et la réussite, c'est un mot qui est différent en fonction des personnes.
Oui, des personnes. On manque de modèles, selon vous, Maximilien ?
Je ne sais pas si on manque de modèles. En tout cas, lorsque Lauriane oui. Parlait de parcours d'excellence, etc., il y a beaucoup de Noirs qui ont des parcours d'excellence.
C'est ce qu'elle veut mettre en lumière, justement.
Qu'elle veut mettre en lumière, mais ils existent, ils sont là. Peut-être qu'on n'en parle pas assez dans les médias traditionnels, mais c'est notre boulot aussi à nous de le faire. Donc, elle le fait, nous le faisons, tout le monde le fait, donc c'est déjà pas mal.
Okay.
Et comme ça, Salah l'a dit, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat à Harvard pour avoir un parcours d'excellence. Moi, je pense à un de mes amis qui s'appelle Bakary Sako, qui est gardien d'immeuble et qui crée énormément d'associations et d'entreprises. Il vient de créer une maison d'édition. Donc, il publie des livres tout en gardant son travail de gardien d'immeuble. Donc,
de beaux parcours aussi à montrer. Mais c'est un volet intéressant, ce manque de visibilité.
Maxime, ils sont là, ces parcours d'excellence, juste ils sont peut-être pas assez visibles.
Oui.
Après, c'est notre travail, comme il disait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours de notre entourage, ou même quand on cherche un petit peu dans différents domaines, qui sont tout à fait honorables, et ça peut être considéré comme de l'excellence. Tout simplement.
On va prendre en ligne un autre auditeur. Cette fois, il s'agit de Jean Lambeau, qui nous appelle du Burkina. Bonjour Jean.
Bonjour Diara, bonjour à tous vos invités.
Bonjour.
Bonjour.
Jean, vous êtes au Burkina. Dites-nous quels médias vous utilisez pour vous informer, vous divertir, par exemple.
Ah, moi, c'est la radio. Et si vous voulez un peu, ça remonte depuis à mon enfance. Hein.
Mm-hmm.
Quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui aimait écouter les informations. Il écoutait et il ne comprenait pas le français. Mm-hmm. Et il m'appelait pour lui traduire. En ce moment, moi, j'étais d'abord à l'école primaire. Et donc, c'est depuis là que j'ai pris l'habitude vraiment d'écouter RFI et j'ai grandi vraiment avec ce désir vraiment d'écouter RFI.
Qui est disponible maintenant dans plusieurs langues locales. Heureusement, ça a été un bon choix stratégique pour nous. Hein.
Voilà, donc j'ai grandi quand je suis arrivé au collège aussi. Il y a mes camarades qui disaient que moi je suis curieux comme un journaliste, que je vais devenir journaliste ou quoi. Je dis, ah, moi je cherche l'information pour mieux être à jour.
Au-delà de la radio, est-ce que vous utilisez un autre média pour vous informer ?
Oui, je regarde la télé de temps en temps quand je suis en ville, parce que moi je suis au village, donc au village il n'y a pas toujours la télé. Voilà, maintenant que je suis en ville, j'utilise aussi Facebook, Instagram et WhatsApp pour m'informer aussi.
Merci d'avoir participé à cette émission, Jean.
Merci beaucoup.
La radio a beaucoup de succès. Nous, avant d'enregistrer cette émission, on a lancé des appels à témoins sur les réseaux sociaux. Tous les commentaires citaient la radio. Donc ça là, vous êtes bien en pole position pour justifier la préférence des auditeurs. Bien entendu, la radio, on a été cité, ça, je reviens pas là-dessus. Mais en termes d'accessibilité, c'est vraiment ce qui est remonté. On a par exemple Latifou qui nous dit que la radio, elle est partout. Je l'écoute aujourd'hui grâce au portable. J'écoute la radio dans mon champ, dans mon jardin, sur ma moto et même étant dans un véhicule. On a également Valdo qui nous dit que la radio, c'est vraiment son premier choix, parce qu'en fait, il y a l'effervescence des smartphones. Alors peut-être qu'il voulait dire, voilà, car le phénomène du smartphone est là, et nous avons accès à l'information à tout instant via notre cellulaire. C'est vrai que ce tournant du digital, vous qui êtes responsable du volet digital d'Africa numéro 1, quelle place à cette discipline très importante, j'imagine.
C'est très important, digital, mais je pense que c'est pour les médias traditionnels, c'est une continuité, finalement. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui se passe à l'antenne, mais maintenant, il y a du contenu qui est, à travers les réseaux sociaux, permet ou d'avoir, pourquoi pas, des nouveaux auditeurs, ou d'intéresser sur certaines thématiques. Je pense que c'est là.
Donc, Africa Radio a une stratégie spécifique pour les réseaux sociaux, par exemple?
Oui, après, c'est relativement récent. J'ai rejoint la radio il y a pas très longtemps, et depuis cette rentrée que je m'occupe plus du volet digital. C'est-à-dire que créer des contenu juste pour le digital, ça veut dire que c'est une manière finalement, à travers par exemple quand je fais une petite vidéo, Robert Manu Dibango, ceux qui connaissent la radio connaissent Robert et Manu Dibango depuis des années, Robert Braza, et quand on crée créer ce contenu-là, bah, y a des gens qui ne connaissent pas forcément l'émission, mais qui peuvent être s'intéresser à travers
cette
vidéo.
Mais la radio a un peu raté le coche, du coup, parce qu'on est en 2020, c'est aujourd'hui qu'une radio comme radio.
La radio ne m'a pas attendu pour avoir des réseaux sociaux.
Mais du coup, qu'on mette en place une véritable stratégie, mais on le voit, même nous, ici à Radio France Internationale, on met de plus en plus de contenu vidéo et on n'est pas les seuls. L'ensemble des radios.
Je pense qu'il y a, pour tous les médias, il y a eu une période où faut digérer. C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée d'Internet, certains voient ça comme, sont peut-être inquiets même, dire qu'ils vont peut-être nous prendre une place ou autre. Non, je pense que faut prendre le temps de le digérer et faire les bonnes choses. Après, je sais pas si ça vient tard, mais en tout cas ça vient, donc c'est le plus important.
Allons-nous dire jamais. Maximilien, comment Afropolitain intègre la stratégie des réseaux sociaux?
Étant donné que nous sommes un média relativement jeune, puisqu'on est arrivé il y a 4 ans, dans la stratégie a tout de suite été d'avoir différents canaux, parce que justement le dernier témoignage est du Burkina Faso est très intéressant. Je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte quand on habite en France, mais notamment quand on est en Afrique, on se rend compte que tous les canaux ont leur importance. Donc aussi bien la radio que la télé, que le digital sur les smartphones en général, ou les magazines papier. Donc l'arrivée d'un nouveau média, il est souvent vu comme une concurrence ou comme une menace, mais finalement, dans l'histoire des médias, on se rend compte que l'un ne remplace pas l'autre. Et donc, nous, quand on a créé l'Afropolitain, on a tout de suite eu cette idée même cette nécessité, c'est pas juste une idée, d'être aussi présent sur le magazine papier qui, lui, était important à mes yeux, que sur le digital et le numérique. Et avoir un site internet, et avoir des réseaux sociaux, et pouvoir compléter notamment un article sur le papier, le compléter par de la vidéo qu'on va balancer sur le site internet ou des short stories qu'on va mettre sur Insta.
Aussi Snapchat?
Non. Pas Snapchat encore,
donc
parce qu'on est un peu vieux. Et donc, on n'arrive pas bien. Il faudrait qu'on trouve une stagiaire qui soit calée là-dedans. Parce que
on va vous trouver cela, Maximilien.
Là, je joue aussi beaucoup sur les différents médias qu'on utilise.
Aurélia, vous, clairement, vous avez misé directement sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et avec succès sur votre page Insta, il y a 1,4 million d'abonnés. Vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux. Ça a été une stratégie dès le départ. Vous avez senti qu'il fallait miser là-dessus?
On s'est dit que voilà, notre point central c'est la musique et en général sur internet il y a beaucoup de tendances, donc des tendances qui reviennent, qui existent déjà depuis très longtemps et nous notre but c'est de les partager, donc les anciennes tendances qui reviennent à la mode comme en suivre, donc celles qui sont toutes jeunes, toutes fraîches, et le faire découvrir au monde entier.
Comment vous expliquez l'ampleur de ce succès? Quand vous postez une vidéo en 2 minutes, il y a déjà 100 000 vues.
Je pourrais même pas l'expliquer parce que même moi je suis encore étonnée et ça grandit de jour en jour.
On arrive déjà à la fin quasiment de cette émission. On va faire un petit tour de table peut-être et voir avec vous ensemble quel tournant il faudrait prendre pour justement accentuer et donner plus de visibilité à toutes ces cibles, à ces afrodescendants, à cette diaspora et à ces jeunes qui tentent de créer du contenu surtout digital.
Non, mais je trouve que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de pure players justement qui voient le jour et qu'il y ait des initiatives justement du continent notamment qui lancent des choses à travers les médias. Après, je pense que nous, afro-descendants, la diaspora, il y a un lien avec l'Afrique. Ça veut dire que paradoxalement, pour certains, on a grandi ici, on est né ici, mais on a ce lien avec l'Afrique et ces médias nous permettent de voir l'Afrique de manière différente. Donc à partir de ça, moi je pense que il y a un lien à faire tout simplement entre l'Afrique, entre sa diaspora, et je pense qu'il y a que du positif à retenir de tout ça, de toutes ces initiatives, de ces belles idées qui émergent sur le continent.
C'est bien pour ça qu'on les met en lumière. Hein. Dans Alors on dit quoi, Aurélia?
Merci à tous, et puis je suis très contente d'avoir fait découvrir mon média
NWE
à l'antenne.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Et Maximilien, vous, que souhaitez-vous dire à nos auditeurs aujourd'hui autour des médias et d'Afropolitain, peut-être le tournant de cette magazine?
Pour compléter la question, en fait, ce que je dirais, c'est que de toute façon, ça va gonfler organiquement. On l'a vu pour vous, on l'a vu pour nous. Je pense que c'est Africa Radio. Moi, je la connais comme Africa numéro 1,
oui. Il faut qu'on s'adapte encore un petit peu.
Mais oui, ça se fait automatiquement, organiquement. En plus, en multipliant les collaborations, je connais ton média et tu as travaillé avec Sine, donc qui est sur BET, donc Viacom, MTV, etc. Donc chacun se fait des passes décisives, chacun s'entraide et ça permet d'être plus fort et de grimper, quoi.
Merci infiniment pour votre participation. En tout cas, merci à vous, Salah.
Merci pour l'invitation.
Merci à vous, Aurélia.
Merci beaucoup.
Merci enfin, merci à Maximilien.
Beaucoup. Alors, on dit quoi ? Diaran Jai.
La semaine prochaine, focus sur le théâtre, qui est un genre littéraire particulier, mais il évoque aussi l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie. Samedi prochain, c'est ce dernier aspect qui nous intéresse particulièrement. Ce spectacle a pour vocation de transporter, susciter de l'émotion, faire réfléchir ou encore faire réagir les spectateurs. Alors, êtes-vous touché par le théâtre ? Est-ce un genre qui a du succès chez les jeunes ? Vos réactions au 33 647 740 742. On écoute à présent Saïfon Baldé, Naturel.
Before I tell me, Bale Ben Fandi, Cosari, who got to go Lila Vegili, Lapida would you brought him here, Tama? Well, now feed a bowly, me and your Tama. Sikom in don't know what the Bauluda Lavado, Sikom in don't know what the Danejo Canaro, Dube, so Bauli come here, Sir Mantore, Bonatia, Romari Valo. I'm African, so I fear death not to your lavale, to your lavale. Alla tagir mao mantar konatire. So tagi madabauli mantar konatire. So tagi madarabni mantar konatire. Si tagi madalava mantar konatire. Miro andi jube buyar be bauli berauni. Miro andi wor be buyar be bauli berauni. Oh mama ye, ono yo jube mile moja.
Moja na e.
Kona yo wor be mile moja na e. Si mi meje tika fita gado you my love. Allah taki moti mini ma wata dula ma. Wo beta gama ko bumbe benno be ya ta feel. Wo beta gama ko juku be benno be wa ta fus. Wo beta gama ko pawa esa son ki be na ta. Wo beta gama ko bobo be wa ta halu de feel. Ala ta gir ma man ta kona tire. So ta gima da bauli man ta kona tire.
C'était Naturel de Saïfon Baldé.
Alors, on dit quoi ?
Et nous recevons à présent Chaye Jienin. Elle est créatrice et rédactrice en chef de Nothing But The Wax, un blog et un site maintenant qu'elle anime depuis 2010, un véritable média où l'on parle voyage, beauté ou encore culture, mais aussi société. Bonjour Chaye.
Bonjour Diara.
Alors, nothing is real, everything is possible, just do it. C'est une phrase qui vous dit quelque chose, ça. Comment t'es là pour nos auditeurs qui vous découvrent peut-être ?
Alors, c'est un peu mon mantra de dire que tout est possible et qu'il suffit de se lancer, de le faire. Et c'est un petit peu l'état d'esprit qui a eu tout autour de l'aventure Nothing But The Wax, puisque, comme tu l'as dit, c'était au départ un blog que j'ai lancé en 2010, où je parlais de ma passion qui était le wax, puis après c'est devenu la mode africaine. Mm-hmm. Et plus je travaillais et surtout plus je discutais avec ces créateurs, ces artistes, et plus je me rendais compte qu'on parlait au-delà de la mode, au-delà des vêtements, parler surtout de valoriser notre héritage culturel.
Mais là, on parle justement de vax, mais le vax, ça a longtemps été... Jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a beaucoup de polémiques autour du vax qui ne nous appartiendrait pas finalement et qui serait finalement exporté. Est-ce que ça n'est pas en décalage avec l'idée principale de Nothing But The Wax qui, justement, valorise les cultures et l'Afrique ?
Non, je ne pense pas que ce soit en décalage. J'ai gardé ce nom parce que ça correspond vraiment à l'histoire du média et à mon propre éveil. Dans le sens où j'ai découvert le wax, J'ai eu un amour pour ce tissu. Après, j'ai découvert qu'effectivement, c'était pas africain, mais hollandais. Et en même temps, ce tissu, à chaque fois, on se le réapproprie d'une certaine manière. Et je dirais que notre génération de jeunes afro-français basés à Paris, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de choisir entre être français ou être africain, mais qu'on pouvait être les deux, et que surtout qu'il fallait donner une valorisation à notre héritage culturel, la première des choses qu'on a faites, c'était de commencer à porter des vêtements avec du tissu africain. Et ça a créé toute une pléthore de marques afro-parisiennes qui se sont lancées. Et aujourd'hui, quand on regarde avec le recul, il y a tout un écosystème de la mode africaine qui s'est lancé. Donc je pense qu'aujourd'hui, le wax est entré dans la pop culture globale, donc ça appartient... ça devient mainstream en fait. Mmh. Et du coup, ça veut dire que parce que ça devient mainstream, on peut également commencer en fait à questionner le tissu en termes d'identité, notre rapport avec. Et voilà.
Est-ce qu'il y a de très intéressant en parcourant le site Nothing But The West, c'est que j'apprécie d'ailleurs particulièrement, c'est cette idée d'Afrique positive, d'Afrique où il y a beaucoup de cultures variées. Il y a d'ailleurs de l'anglais et du français sur le site, ce qui est intéressant. Donc ça touche à toute l'Afrique finalement. C'est un peu la ligne éditoriale, la marque de fabrique de ce média.
Oui. En fait, je voulais faire un média qui ressemble un peu à notre génération. C'est-à-dire que on a quand même grandi avec énormément de blogs qui nous ont permis de trouver une presse où on pouvait se retrouver, se représenter, et surtout sur des problématiques qui nous concernent. Et à travers les réseaux sociaux, notamment Instagram, Instagram a permis de décloisonner énormément de monde. Et à travers ce média, qui est une plateforme qui donne la parole aussi bien aux artistes, aux intellectuels et autres, on veut être le reflet de cette génération qui s'exprime et qui est en train de vivre un bouillonnement intellectuel, culturel, créatif, qui est très intéressant et qui est en train de façonner un petit peu le devenir de notre Afrique et de notre génération.
Et avec justement cette richesse qui est vraiment énorme, comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Comment ça se passe du coup à la rédaction de Nothing But The Wax?
Alors, comment choisir les sujets? Vaste question. En fait, on a plusieurs rubriques. On a la mode, la culture, l'art, des sujets de société. Comme par exemple la question de la restitution des œuvres d'art en Afrique. Pourquoi c'est important?
Oui, j'ai vu un article avec Fanny Winsard.
Exactement. Typiquement sur la question de la restitution, de prime abord, notre génération se disait, bon ben en fait, on doit nous rendre les objets parce que ça nous appartient. Et le fait de faire cette interview avec Fel Winsar, c'était finalement de rentrer dans des enjeux plus grands et de comprendre de manière plus intense cette question. Et cet article a été énormément partagé parce que les gens se sont rendus compte que, au-delà du fait de récupérer quelque chose qui nous appartenait,
ça va au-delà.
Mmh. Et du coup, on essaie vraiment d'être sur des questions qui vont intéresser et en même temps, on veut aussi apporter une approche critique pour donner aussi cette possibilité aux gens d'avoir un petit peu la clarté sur tous les gros sujets d'actualité qui nous intéressent. Mmh. Et je tiens aussi à préciser que c'est vrai que quand on parle d'Afrique, notamment dans les médias, il y a souvent un peu ces marronniers de la femme africaine, l'émergence africaine, le digital. Et je pense que c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que ce sont vraiment des lieux d'expression. On dit aujourd'hui que c'est le 6e continent. Et c'est là-bas que nous, on puise vraiment le cœur de nos sujets.
Écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Chaillé. Peut-être une dernière question autour d'un récent projet de podcast.
Oui.
Oui, pouvez-vous nous en dire plus en quelques mots
sur ma dernière interview? Alors en fait, on a lancé un podcast qui s'appelle Introspection sélective. Et c'est un podcast particulier puisque l'idée, c'était de valoriser une jeune autrice qui a lancé un livre qui s'appelle Introspection sélective. Elle s'appelle Amanda Winnie Kabwiku. Et l'idée, c'était de dire qu'on va soutenir cet auteur en choisissant 5 passages, 5 extraits de son livre qu'on va mettre sous forme de podcast avec une direction artistique sonore. Et si les auditeurs qui ont aimé ce podcast, bah, ils vont peut-être avoir aussi envie d'acheter le livre. Donc c'est une manière de soutenir la création indépendante et en même temps de commencer aussi à tâter de l'oralité à travers l'outil qu'est le podcast.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Chaillé. Je rappelle donc que vous êtes créatrice et rédactrice en chef de Nothing But The Wax, qu'on peut retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Ouais. Merci beaucoup, Diara.
Merci à vous.
notre seconde pause musicale, c'est Cartel qui s'en charge avec son titre Come Home.
Le prochain écrit m'a fait Come Home. Tell her you want one. She don't panic, I kill her, cause you feel your drone. Tell your pussy pretty, send a picture to me phone. Bubble panic, grizzly, yeah, me love it when you moan. If your man cocky dead, kick him with a stone. If your pussy bushy, me a travel with a comb. See the cocky, you wet, younger than a bone. Turn up in a your pretty little pussy where you own.
Be a be a manalif, manalif, manalif. Manalif, manalif, manalif.
God damn it, your body wicked in a bed. She can't say you can't bubble by your bed. Come home, tell her you alone. Sit down on the cocky like I say you feel your drone. Tell your pussy pretty, send a picture to me phone. Bubble pan the grizzly, yeah, me love it when you moan. If your man cocky dead, kick him with a stone. If your pussy bushy, me a travel with a comb. See the cocky you wet, younger than a bone. Turn up in a your pretty little pussy where you own.
Be a be a manalif, manalif, manalif. Manalif, manalif, manalif.
So feed the fuck where you forget. Half a member, I bet you say you no forget. Say that body, you I put the pep in your step. If your man cocky dead, kick him with a crep. Member say me better than a pack of cigarette. See the cocky you wet, longer than a jet. Turn up in your pretty little pussy till you wet.
Be a be a manalif, manalif, manalif. Manalif, manalif, manalif.
God damn it, your body wicked in a bed. She can't say you can't bubble by your head.
C'était Cartel, Come Home.
Alors on dit quoi ? Djaranjay.
Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Valdez, un post Facebook largement partagé présente une liste de 20 maladies qui peuvent être guéries en consommant de la poudre de clou de girofle. C'est une publication que vous avez analysée à Africa Tchèque ?
Oui, Diara.
Alors d'abord, pour nos auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que le clou de girofle ?
Le clou de girofle est l'une des épices les plus précieuses, utilisée depuis des siècles comme agent de conservation des aliments et à de nombreuses fins médicinales. Il est originaire d'Indonésie, mais est aujourd'hui cultivé dans plusieurs régions du monde. Pour ce qui est des propriétés médicinales du girofle, l'étude souligne que l'activité antioxydante et antimicrobienne du clou de girofle est supérieure à celle de nombreux fruits, légumes et autres épices et mérite donc une attention particulière.
Les vertus attribuées à cette épice dans cette publication Facebook sont-elles avérées compte tenu de ce que nous savons déjà sur le clou de girofle ?
Diara, déjà permettez que je revienne sur le contenu de cette publication qui propose donc de mettre un peu de poudre de clou de girofle dans une tasse de lait et de boire cette mixture à jeun deux ou trois fois par semaine pour soigner des maladies comme l'infertilité, la faiblesse sexuelle, les hémorroïdes ou encore le cancer, pour ne citer que ces maladies-là. La question que vous posez ici est la même que nous avons adressée aux différents spécialistes que nous avons interrogés pour les besoins de cet article. La nutritionniste Ndei Khadidia explique qu'il est difficile de préciser toutes les maladies que le clou de girofle pourrait permettre de guérir. Toutefois, elle ne nous confirme pas que cette épice puisse être capable de traiter une des 20 maladies énumérées dans ce post Facebook. De son côté, professeur Abdoulaye Ley, qui est professeur d'université en endocrinologie, métabolisme, nutrition et en médecine interne, soutient qu'il existe en effet beaucoup d'études en laboratoire ayant montré in vitro de potentielles vertus antioxydantes et antibactériennes du clou de girofle sur certains germes, mais aussi des propriétés anti-inflammatoires et même fertilisantes sur des spermatozoïdes d'origine bovine. Professeur Ley a dit cependant n'avoir pas connaissance d'études in vivo chez l'homme pour corroborer l'efficacité du clou de girofle sur les maladies citées dans cette publication Facebook, encore moins des données pharmacodynamiques pour une prescription médicale sérieuse basée sur des évidences scientifiques à ce jour. Africa Check est aussi allé chercher du côté de la médecine traditionnelle, parce que certains de nos internautes nous reprochent souvent de ne pas donner la parole à ceux qui travaillent, en tout cas à ceux qui sont spécialistes en médecine traditionnelle. Et nous avons donc contacté Eric Bodossou, qui lui est spécialiste en médecine traditionnelle et président de l'ONG de recherche culturelle et médicale Prometra. Eric Bodossou a confié que dans le cadre des recherches menées par l'organisation qu'il dirige, il est impossible d'attester de la véracité des vertus prêtées au clou de girofle contre ces maladies.
Ce qu'il faut retenir du coup, Valdez, c'est que le clou de girofle a certes quelques vertus, notamment antiseptiques et anti-inflammatoires, mais son efficacité contre les maladies listées dans cette publication sur Facebook n'est pas scientifiquement prouvée.
C'est bien ça, Diarra, et c'est en substance le même message qui nous a été donné par les spécialistes interrogés pour les besoins de cet article.
Merci, Valdez.
Merci, Diarra.
Alors, on dit quoi ? Jaranjaï.
Et place à présent à la rubrique culture de notre chère Anna. Bonjour Anna.
Hello Diarra.
Vous nous parlez de cinéma aujourd'hui ?
Tout à fait Diarra, je vous présente aujourd'hui Queen and Slim, un long métrage de Melina Matsoukas avec pour acteurs principaux Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith. Et la bonne nouvelle, c'est que ce film est sorti au cinéma dans plusieurs pays d'Afrique entre les 12 et 14 février 2020.
Et dans quel pays exactement ?
Alors pour en nommer quelques-uns, à Madagascar, au Nigeria, au Togo, en Ouganda, en Namibie, au Sénégal et en Tanzanie.
Et du coup, quel est le thème de ce film ?
Eh bien, il s'agit d'un long métrage coup de poing qui met en scène Daniel Kaluuya, qu'on a pu notamment voir dans le fameux Black Panther, et Jodie Turner-Smith dans le rôle d'un couple agressé par la police. Un film qui n'a jamais été autant d'actualité puisque celui-ci traite d'un fait divers et qui est malheureusement devenu le lot quotidien de nombreux noirs américains, à savoir les contrôles de police qui dérapent et finissent mal. Lors d'un ordinaire rendez-vous en amoureux en Ohio, un homme noir et une femme noire sont arrêtés pour une infraction mineure de circulation. La situation dégénère, entraînant des conséquences soudaines et tragique quand l'homme tue un policier pour se défendre. Terrifiés et leur vie désormais en danger, l'homme, un employé de magasin et la femme avocate de la défense criminelle se voient obligés de fuir. Mais l'incident a été filmé et la vidéo se propage. Le couple devient alors involontairement un symbole de traumatisme, terreur, deuil et douleur pour les Américains. Alors qu'il conduit, ces deux fugitifs vont apprendre à se connaître l'un et l'autre, mais aussi se découvrir, et dans les circonstances les plus désespérées. Ils vont forger un amour sincère et puissant qui va révéler leur profonde humanité et façonner le reste de leur vie. Je vous invite donc à consulter le site internet du film afin de pouvoir obtenir toutes les infos relatives à ce dernier.
Merci beaucoup Anna.
Je vous en prie.
Alors on dit quoi, c'est terminé, merci de nous avoir suivis. Samedi prochain, reportage au Cameroun. Selon le groupe interpatronal, près de 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail. Comme dans de nombreux pays en voie de développement, l'offre est de loin inférieure à la demande. Aimé Catherine Moukouri a justement rencontré quelques jeunes de Douala qui s'activent à trouver un emploi décent, notamment en passant par Internet. Si vous souhaitez des conseils pour élaborer votre CV ou lettre de motivation, eh bien réagissez sur nos réseaux sociaux. Nous attendons vos commentaires sur WhatsApp, Facebook et Twitter. Et si vous aimez Alors on dit quoi, nous vous conseillons vivement de vous abonner à notre podcast en cherchant Alors on dit quoi dans votre application favorite de podcast, iTunes, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Et si vraiment vous voulez nous encourager, eh bien mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Et en tout cas, merci infiniment pour votre fidélité et merci bien entendu à toute mon équipe d'Abba, Mariam, Beverly et Guillaume, Ubnon Ragongol. À bientôt.